Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Ils nous font découvrir tous deux les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces podcasts sur le site backstagelepodcast.com, tout attaché en minuscules, backstagelepodcast.com. Aujourd'hui, second épisode de l'entretien avec le superviseur des effets visuels Cédric Fayol, au micro donc de Margot Delpierre sur un montage et un mixage de Thomas Langlin.
À quel moment vous arrivez sur le projet Au revoir là-haut ?
Au revoir là-haut, très tôt. Très tôt. Moi, j'ai reçu... c'est assez marrant parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Albert m'a demandé de lire le livre. Et en me disant, ouais, j'aimerais bien l'adapter. Est-ce que tu penses que c'est faisable ? Donc j'ai lu le livre de Pierre Lemaître. J'ai dit, ah ouais, c'est intéressant, machin, etc. Il dit, oui, ben c'est super, mais est-ce que tu peux me faire une étude sur le livre? J'ai fait, ah ouais, quand même, c'est pas un scénario, c'est quand même 600 pages. Donc, on a fait une étude sur le livre. Voilà. Qu'il a aiguillé un petit peu.
Pour savoir ce qui était possible de
faire. En fait,
il
voulait pas se lancer dans cette entreprise si c'était pas réalisable. Parce que faire un film d'époque sur la Première Guerre mondiale, etc., il voulait vraiment avoir mon avis. En tout cas, sur la fabrication de la reconstitution d'époque. Dans le livre, on a sorti un petit peu tous les cadres qui pouvaient figurer dans le film, entre les batailles, la reconstitution de Paris, la gueule cassée, etc. Donc, on est parti de ça. Et puis, j'ai dit, je pense qu'on peut faire des choses. J'ai dit, j'ai besoin peut-être un peu plus de budget que d'habitude. Et voilà, et on a fait ça. Il a commencé à écrire ses premières versions. De ses premières versions, on les a étudiées, pareil, du côté effets spéciaux, bien sûr. Et puis voilà, on a travaillé comme ça jusqu'au moment du tournage.
C'est rare d'arriver aussitôt sur un projet ?
C'est assez rare. En général, on arrive, il y a déjà un scénario. Voilà. Mais encore une fois, avec certains réalisateurs avec qui je travaille depuis longtemps, comme Jacques Audiard, par exemple, c'est pareil. Des fois, c'est sur une idée. Il dit, ah, tiens, voilà, j'ai cette idée, j'ai trois pages. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, commence à y réfléchir. Voilà. Donc, c'est des trucs qui sont en veille chez moi et qui sont là et qui reviennent un petit peu. On essaie d'avancer comme ça. Puis après, il y a un petit update avec une nouvelle version de scénario.
Mais alors, Au revoir là-haut, c'est plusieurs années de travail.
Oui, Au revoir là-haut, en gros, ça s'est étalé sur quasiment 3 ans. Entre la lecture du livre et puis la finalisation. Mais voilà, entre la lecture du livre et la version tournée, il s'est passé 1 an et demi. Et puis après, il s'est passé 1 an et demi entre le tournage et la fabrication. Donc, ouais, ça fait 3 ans de travail. Mais après, c'est 2 ans à temps plein, on va dire.
Et pour l'anecdote, alors je ne sais pas si c'est rare dans votre métier, mais votre nom arrive très vite, très haut dans le générique de fin. Il y a Albert Dupontel, évidemment, Pierre Lemaître, qui est l'auteur du livre qui a été adapté, et puis tout de suite après, le vôtre, parce que vous aviez le statut de réalisateur seconde équipe. Qu'est-ce que ça veut dire, ce statut ? Qu'est-ce que vous aviez de plus comme responsabilité ?
En fait, ça, c'est un privilège que me fait Albert depuis, voilà, qui m'a fait la première fois sur Au revoir là-haut et qu'on a renouvelé sur Adieu les cons. En fait, sur Au revoir là-haut, il m'avait proposé d'être réalisateur deuxième équipe parce qu'il y avait beaucoup de plans à effets spéciaux. Et sur pas mal de plans, en fait, comme lui, il joue aussi, il y a pas mal de plans où, effectivement, en tant que superviseur, vous donnez des consignes précises de cadre, de déplacement pour faciliter le travail des effets spéciaux. Et donc, au bout d'un moment, il m'a dit, mais sur certains plans, vu que c'est toi qui dirige le plan, bah, je vais te mettre réalisateur deuxième équipe, comme ça au moins tu as un statut qui permettra d'être légitime auprès des équipes pour donner des indications, et comme ça moi sur ces plans-là je me laisse faire et je ne fais que l'acteur. Après c'était de la choréale au final, parce que voilà, il adore ça et que machin, mais c'était super, et au final on a tourné beaucoup de plans comme ça au départ, où on était vraiment les deux derrière le combo à diriger, donc Albert sur ses envies, et puis moi de ses envies je les traduisais pour donner des contraintes de fabrication. Et petit à petit, voilà, ça s'est bien passé. On s'est bien marré. C'était assez fluide. Donc, au bout d'un moment, il m'a dit, tiens, j'ai plein de petits plans à tourner. En plus, j'ai pas le temps. Enfin, il faut que je tourne avec mes acteurs principaux. Donc, prends une deuxième équipe, va tourner des inserts, va tourner avec des figurants, d'autres plans dont j'aurais besoin pour le montage. Et voilà. Et donc, après, je partais. Je me suis retrouvé des journées où j'avais pas d'effets spéciaux à faire. Et je me retrouvais avec une deuxième équipe à tourner des plans. Donc, c'était super. Et on a renouvelé ça sur Radio Les Cons. Ouais. Et c'est génial.
Mais jusqu'à présent, c'est assez rare d'avoir ce statut de réalisateur seconde équipe.
Ah bah, c'est la seule fois. C'est le seul avec qui j'ai ça. Et c'est super. non, c'est la seule personne avec qui j'ai ça. Mais parce qu'effectivement, il y a une confiance engagée. C'est des apartés, on va dire, par rapport à mon métier. Avec lui, je le fais en totale confiance parce que je sais qu'il me fait confiance donc voilà, je suis pas effrayé de le faire.
Vous avez une relation de confiance assez privilégiée. Vous avez même fait un petit caméo au début, je crois, d'Au revoir là-haut. On vous aperçoit si on regarde bien.
Oui, en fait, c'est marrant, mais en fait, dans la scène de bataille, donc pour le coup, il y avait plusieurs caméras. Et donc moi, je cadrais une caméra et j'étais habillé en soldat. Pour pas être si une autre caméra me chopait, au moins j'étais habillé en soldat. J'ai filmé, on a filmé des explosions, etc. Et puis en fait, l'histoire de ce caméo, c'est qu'il y a eu une coupure déjeuner. Puis Albert avait envie de faire un plan encore avec juste lui et puis Nahuel qui levait la tête au-dessus des tranchées. Et comme il y avait coupure déj, tous les figurants étaient partis. Et puis il m'a vu, il m'a dit mais toi t'es habillé. Allez, et voilà, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé en caméo là-dedans, c'était marrant.
Et ça vous a plu ?
Ouais, c'est pas du tout mon truc d'être devant. Ah, j'étais, on aurait dit un suricate qui sortait la tête comme ça, et toute l'équipe qui se foutait de ma gueule. Mais non, c'était marrant, voilà. C'était marrant. Je l'ai refait dans Adieu les cons. Hein. Mais tout petit, c'est la scène à la Défense, là, il manquait un personnage qui donnait les cours de la bourse. Donc je me suis filmé en train de faire un boursicoteur.
Il y a un gros travail de recherche pour reconstituer toute une époque, les années 1918-1920, la fin de la guerre et puis le retour à Paris à cette époque-là. Vous avez réussi à reconstituer l'époque. Vous avez travaillé avec des chefs d'écho. Comment ça se passe?
Oui, on travaille avec forcément. En fait, nous, quand on allonge des décors comme ça, c'est toujours avec le chef décorateur qu'on travaille. C'est lui qui nous, il fait un travail de recherche phénoménal. Et ensuite, il nous donne une base de documents sur laquelle on s'appuie. Et en fait, nous, on prolonge son décor. Donc, il faut être cohérent aussi avec le décor qu'il a construit. On est vraiment dans la continuité de son travail, encore plus avec le chef décorateur de Jacques Audiard, qui est Michel Barthélémy, qui lui, à chaque fois, me remplit. Déjà sur les Frères Sisters, j'avais un document d'une centaine de pages de comment étaient les États-Unis, comment étaient les villes, jusque dans les détails des accessoires, etc. Donc, après, nous, on fait nos propres recherches aussi, mais on est beaucoup aidé par les chefs déco.
Ça veut dire, si on caricature, hein, bien sûr, que quand on fait des effets visuels comme ça, il ne s'agit pas d'être bon sur un ordi avec 2-3 logiciels. Il faut aussi se cultiver, s'intéresser au contexte historique, etc.
Ah bah complètement, il faut savoir. Oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est génial dans ce métier-là, c'est que moi, je suis passé de la guerre de 14-18 où j'ai appris énormément de choses parce qu'on va dans le détail. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et en après, j'étais en train de faire un western. Donc oui, et on est obligé de se documenter, c'est évident. Parce que sinon, on comprend pas ce que veut raconter le réalisateur. Il faut comprendre la période, il faut essayer de faire des choses cohérentes. C'est pas que technique, quoi.
Il y a beaucoup de scènes, il me semble, d'Au revoir là-haut qui ont été tournées sur fond vert. Il y a une scène, moi, qui m'a impressionnée. J'ai vu une photo du making-of. C'est la toute dernière scène qui est censée se situer, être tournée au Maroc. Où on les voit marcher dans une rue au Maroc, donc il y a les bâtiments typiques, le sol qui est un peu sableux, et en fait, on se rend compte en voyant la façon dont ça a été réellement tourné que vous êtes sur un parking.
Exactement.
Avec un peu de sable, enfin de terre pour faire le sol.
Et pas
quelques
des shops,
passants, il y a rien. Et vous êtes vu de haut, c'est impressionnant. Vous êtes sur un parking avec 3 fonds verts.
Oui. En fait, c'est un des plans les plus compliqués du film, hein, malgré tout. Ça, en plus, c'est le plan final. En fait, c'est une séquence qui fait 2 plans dans le film. Et on s'était posé la question, on avait fait des repérages au Maroc, etc., pour aller tourner. Mais c'était extrêmement compliqué pour trois plans d'aller tourner au Maroc, d'aller faire de la déco, de mettre de la figuration, d'envoyer toute l'équipe ou une partie de l'équipe. Là. Enfin bref.
Pour à peine une minute de film.
Ouais, pour trois plans. Enfin franchement, c'était il y avait un plan au stade et un plan au drone. Donc on s'est posé la question, on a fait l'étude, hein, on a fait une étude comparative d'aller sur place. Et moi j'ai fait l'étude de dire bon, on met tout en fond vert. Et quand on a fait l'étude, on s'est dit c'était à peu près les mêmes prix. On n'était pas moins cher, hein, c'était à peu près les mêmes prix. Mais pour le coup, à être au même prix, Albert a dit on va se mettre sur le parking, hein, comme ça, ça nous on gagne du temps parce qu'au final ce truc-là, on l'a tourné en une matinée, je crois. On serait allé au Maroc, il aurait fallu 3-4 jours plus la déco qui partait une semaine avant. Enfin bref, donc on l'a tourné comme ça. C'est vrai que quand on l'a tourné, c'était assez étrange. Il y avait rien, il y avait juste un banc de sable et puis des fonds verts partout. Et après c'est un plan où on a mis quand même, je pense qu'on a mis 2 ou 3 mois pour le faire.
Tout ça, où ça, sur un parking en Île-de-France?
Ouais, on a tourné à Bry-sur-Marne, en fait, là où on a tourné quasiment, enfin, une grosse partie du film à Bry-sur-Marne. Et il y a beaucoup d'extérieurs. Au même endroit, on a tourné l'hôtel du Tessia, pareil, c'était des fonds bleus. On a tourné le Bon Marché, pareil. On a tourné à la place de Clichy. Ces 4 endroits, c'était le même parking.
Parce que c'est trop transformé aujourd'hui par rapport au bâtiment de l'époque, parce que c'est pas possible de faire croire. Un Paris des années 1920.
Ouais, et puis après, c'est la façon de faire le cinéma d'Albert Dupontel. C'est vrai que quand vous faites un plan pour aller au Lutetia, il y avait juste un plan du Lutetia. Aller déplacer une équipe là, bloquer la circulation, demander des autorisations. Il y a un moment, il s'est dit... lui, ça lui fait pas peur. Bon, si ça lui fait pas peur, ça me fait pas peur, donc on y va. Après, il y a des réalisateurs qui aiment pas ça. Ils préfèrent aller tourner sur place et qu'on remette le décor qui a changé, qu'on le remette d'époque, mais ils préfèrent avoir une base. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut s'adapter aux réalisateurs. Il y a des réalisateurs, ils préfèrent tourner sur les vrais décors. Et voilà, on s'adapte.
Il y a une autre scène qui est assez impressionnante. C'est plutôt au début du film. On est donc à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a des milliers de soldats et des milliers qu'on voit sur ce plan. Ils sont tout juste démobilisés et on imagine qu'ils cherchent à rentrer chez eux. En réalité, il n'y avait pas tous ces trains et des milliers de figurants.
Non, mais on avait, je pense qu'on avait un peu maximum une centaine, je crois, de figurants. On a trouvé un hangar qui nous donnait une bonne idée de ce que pouvaient être des lieux de démobilisation à l'époque. Et par contre, c'était impossible de faire venir des trains là-dedans. On pouvait avoir des wagons d'époque, mais c'était compliqué à faire déplacer. Il n'y en a aucun qui pouvait être en mouvement. Bref, tout ça était très compliqué. Donc, on a dû tout reconstruire. On avait une base, on avait les rails, on avait le hangar, on avait quelques figurants. Et puis après, on a dû tout reconstruire pour donner la sensation d'avoir des milliers de soldats.
Et ça ne se voit pas, ça paraît assez indétectable.
C'est le but. C'est le but. Après, c'est toujours un peu délicat quand on fait beaucoup de foule comme ça. Aujourd'hui, on sait que d'avoir 4000 figurants, c'est pas faisable. On sait, bizarrement, il y a un truc où l'œil du spectateur s'est habitué à se dire, tiens, il y a 5000 figurants. On sait que c'est plus faisable. Autant à l'époque de Spartacus, je pense qu'on se posait pas la question. Aujourd'hui, on sait que 5000 figurants, c'est forcément passé entre nos mains. Mais malgré tout, on arrive encore à faire ce genre de plan.
Et dans Adieu les cons, il y a aussi un gros travail, j'imagine, de votre part, parce que même si on dit les effets visuels sont invisibles, il y a un style chez Albert Dupontel qui fait que tout paraît assez artisanal. Il raconte comme ça des sortes de fables. Et on se doute que certaines choses ne sont pas possibles, même si on les voit.
Je pense que dans Adieu les cons, vous doutez pas de la moitié de ce qui a été fait. En fait, on a Adieu les cons, tout le film a été tourné en studio. Voilà. Le film fait 1h27, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il y a 48 minutes de plan truqué. Donc, tout ce qui est extérieur nu, ça a été tourné en studio sur fond bleu. La Défense n'existe pas. Le parking n'existe pas. Le rond-point n'existe pas. Voilà. Donc on a tout tourné. C'est une volonté d'Albert Dupontel. C'était vraiment le parti pris du film de tourner tout en studio. Voilà. Il voulait pas aller dans des décors naturels. parce qu'il avait envie de poétiser un peu tout ce décor-là et de le faire un peu à l'image, voilà, une sorte de contraction de ce qu'il voit du monde moderne. Et donc, il fallait qu'on réinvente des décors complètement. Donc, on a tout tourné en studio.
Mais par exemple, sur ce type de film-là, et enfin chez Albert Dupontel en général, c'est là que vos deux métiers, j'allais dire, se complètent très bien, parce que lui, c'est ça qu'il aime aussi, de faire croire. Même si pour le coup, tout est tourné ou presque en studio, c'est pas un problème, en fait.
Non, mais lui, alors, déjà, il aime bien ça, ça lui apporte un confort aussi, parce qu'effectivement, on tombe plus vite. Parce que plutôt que de se déplacer dans chaque décor, bah c'est le décor qui vient là où on est, donc c'est plus simple. Plus de la moitié du film se passe de nuit, on n'a pas tourné de nuit, on a tourné de jour, donc c'est quand même plus. Enfin, encore une fois, il est quand même réalisateur et acteur, donc c'est très très fatigant. Donc là, il avait un confort, on n'avait pas à se déplacer, on travaillait pas de nuit, on n'a pas des gestions de logistique. Parce que tout se passe, voilà. Donc c'est un vrai parti pris, autant artistique que logistique de sa part, et qu'il assume. Maintenant, après, au départ, il me dit on va tout faire en studio. Même moi, ça me fait un peu peur au départ. Donc j'analyse bien toutes les séquences, etc. Il y a certaines séquences où j'ai dit bah ça, j'ai préféré qu'on tourne sur un décor réel, notamment tout ce qui est extérieur jour. Et après, c'est de la discussion et comment on se fait confiance. Ben il me fait confiance quand je lui dis que ça, je peux pas le faire. Donc il trouve une autre solution. Et après, quand il me dit, bah, moi, ça, j'aimerais bien le faire en trucage, pour le coup, il me fait confiance, quoi.
Et c'est pas trop déstabilisant pour les acteurs qui tournent presque tout sur fond bleu.
Après, Albert accompagne hyper bien ses acteurs parce qu'il l'est lui-même, donc il est vraiment avec eux, il leur explique vraiment, on part pas de rien, c'est-à-dire qu'on a quand même des dessins sur ce que va être le décor à la fin. Les acteurs ont quand même des repères. Puis après, ils ont quand même du jeu entre eux et c'est essentiel. Nous, c'est le décor qui est derrière. Enfin, ils jouent pas avec le décor. Donc, c'est vraiment l'environnement qui les entoure. Une fois qu'ils ont compris qu'ils allaient être à la défense et que le point tout en haut du fond bleu, c'était le 13e étage de la tour, ils admettent et puis après, ils jouent entre eux et puis voilà.
Donc là aussi, sur ce tournage-là, vous étiez présent physiquement et impliqué très vite dans le projet.
Oui. Après, sur les tournages, on est présent physiquement tout le temps. Enfin, dès qu'on a besoin de nous, on va sur le plateau. Enfin, ça fait la moitié de mon temps de travail se passe sur un plateau.
C'est une idée fausse parce qu'on pourrait se dire que tout est tourné et qu'après on vous envoie le film et puis vous travaillez en bout
pas,
de course.
Ouais, pas vraiment. En fait, le truc c'est que la façon dont ça se passe, c'est que on va dire de la façon classique, c'est-à-dire qu'on reçoit un scénario. La production dit ça va être, on aimerait le faire en effet spécial, etc. Donc nous, on étudie ce qu'ils veulent faire, on donne la méthode, parce qu'ils savent pas comment faire, donc on donne la méthode pour faire le trucage, mais il suffit pas de donner la méthode, il faut aller surveiller et accompagner pendant le tournage que la méthode, elle est bien exécutée. Puis nous, sur le tournage, on a plein de choses à faire aussi, à faire des photos, à prendre la lumière qui a été faite sur le plateau pour pouvoir la reconstruire. Donc on a beaucoup de travail sur le plateau à faire pendant le plan et s'assurer qu'on tourne bien tous les éléments. En gros, c'est comme la cuisine, c'est-à-dire que vous allez faire vos courses, vous ramenez tous les ingrédients, puis ensuite vous faites la cuisine et vous livrez le plat. Mais si on vous donne pas les bons ingrédients, vous aurez pas le bon plat. Donc il faut s'assurer de faire les bonnes courses.